pouvez vous asseoir. Mon Seigneur, chers frères et sœurs, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. En ce dimanche, nous célébrons la solennité du très saint sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Seigneur, de présider la fête Dieu. Merci à chacun de vous pour votre présence et votre communion dans la prière. Nous sommes dans l'action de grâce pour bien des événements. Notre synode diocésain, dont le livre des actes est exposé au pied de Notre-Dame. Monseigneur, vous nous avez donné des orientations précises avec des lois et des décrets. Notre journée de prière et de joie partagée en est, je pense, aussi un condensé. Nous sommes dans le jubilé des 150 ans de l'apparition de Notre-Dame à Pontmain, où Marie nous invite à prier et contempler son Fils Jésus dans son mystère rédempteur. Nous sommes aussi dans l'action de grâce pour le jubilé de notre fondation. Nous sommes heureux de faire mémoire avec vous de ces 50 années de grâce. Comme pasteur, mon Seigneur, aidez-nous à entrer pleinement dans l'action de grâce de l'Eucharistie, en recueillir les fruits de salut et nous donner le goût de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, que notre louange, que notre chant fasse vibrer nos cœurs et les murs de l'Église. Pour la gloire de Dieu, amen. Nous pouvons nous lever.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
amen.
La paix soit avec vous.
Et avec votre esprit.
C'est une grande joie pour moi, mes amis, de présider au milieu de vous cette solennité du corps très saint, du sang précieux de Jésus qui nous sont donnés dans le sacrement de l'Eucharistie, la fête Dieu. Nous voulons vraiment la mettre en valeur, tout spécialement dans cette année jubilaire, pour nos frères, nos tout petits frères, qui fêtent cette année le 50e anniversaire de leur fondation. Nous demandons vraiment que le Seigneur répande sur eux la grâce de sa bénédiction, comme le frère Jean-François l'a très bien rappelé. Dans l'Eucharistie, tous les trésors d'amour et de vie que le Seigneur a préparés pour nous, pour notre édification, pour notre sanctification, nous sont donnés par ce sacrement merveilleux de l'Eucharistie. Ouvrons nos cœurs à plein pour en recevoir les grâces en ce jour. Et préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel, jadis promis. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas, faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versée pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu.
Il est question abondamment du sang dans les trois lectures que nous venons d'entendre. C'est peut-être l'aspect de l'Eucharistie qui heurte le plus notre sensibilité. On accepte volontiers de parler du corps du Seigneur, mais la réalité de son sang est davantage laissée de côté. Cela tient à une sorte de répulsion naturelle qui vient de ce que le sang est signe de mort. C'est tous les jours, en effet, que les médias nous relaient des événements dramatiques. Nous vivons dans un monde de violence où partout le sang coule et se répand, celui des victimes, des accidents en tout genre, celui des victimes innocentes, des attentats, le sang aussi des massacres, massacres interethniques en Afrique, dans d'autres continents, des conflits armés en mains endroits de la planète et que sais-je encore. Mais, nous le savons, le sang qui est signe de mort est paradoxalement aussi image de vie et d'espérance. Pulsé par le cœur et circulant dans nos vaisseaux à travers l'organisme, le sang oxygène, nourrit, nettoie et défend tous les tissus et les organes de notre corps. Le sang, c'est la vie, lisons-nous aujourd'hui encore sur les spots ou les banderoles qui invitent les citoyens au don, justement, de leur propre sang pour transfuser les malades ou les mourants et ainsi sauver des vies. Alors je reprends avec vous les trois lectures entendues il y a un instant, dans l'ordre dans lequel elles nous sont données, en insistant sur tel ou tel point qui me semble important. Dans le récit de l'Exode, comme d'ailleurs dans les deux autres lectures, le sang dont il est question est celui de l'Alliance, cette première Alliance que Dieu a conclue lui-même au Sinaï et dont le sang, justement, est le signe extérieur et visible. Qui dit Alliance dit contrat, dit engagement libre et volontaire. Le premier à s'être engagé de façon totale et inconditionnelle dans cette alliance, c'est bien sûr le Seigneur lui-même. Mais nous pressentons bien qu'il ne peut pas y avoir de véritable alliance sans réciprocité. Si Dieu, dans son amour, a noué un pacte d'alliance avec l'humanité entière, cette alliance nous engage à notre tour. Elle appelle une réponse d'amour de notre part. C'était déjà, on l'a entendu, la réponse donnée par le peuple à Moïse. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. On se demande naturellement si seulement cela pouvait être vrai. Et donc je nous pose ce matin la question, sommes-nous disposés, nous-mêmes, à vivre l'Eucharistie comme un pacte d'alliance? Au sortir de cette célébration, qu'allons-nous faire? Allons-nous retourner à nos vieilles habitudes? Allons-nous faire comme si rien dans notre vie n'avait changé, ou bien allons-nous au contraire manifester notre intention résolue de répondre par un amour plus fort, plus authentique à l'amour du Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Dans la deuxième lecture, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait contempler le Christ grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et il insiste dans ce passage sur la supériorité absolue, bien sûr, de la Pâque nouvelle par rapport à l'ancienne. Ce qui nous sauve, en effet, ce n'est pas le sang de bouc ou de jeune taureau, c'est le sang que le Christ a lui-même versé pour nous obtenir une libération définitive. Le sang du Christ signifie évidemment le sacrifice que Jésus a fait de sa vie pour notre salut. Il signifie sa mort violente qui a été transformée en offrande de docilité filiale envers Dieu et de solidarité fraternelle avec nous. Oui, l'Eucharistie est le mystère d'une générosité infinie. Elle est véritablement le sacrement de l'amour. On aura noté en passant cette affirmation forte à propos du Christ, je cite, « Son sang purifie notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. » Oui, par son sang versé pour la multitude, Jésus expie toutes nos infidélités. Il nous purifie de toutes les souillures qui entachent notre existence. Et ce faisant, il nous met en état d'explosion oblative. Il nous rend capables à nouveau de louer le Seigneur et de le servir librement. Que c'est beau! Dans l'Évangile, enfin, saint Marc évoque les conditions dans lesquelles les disciples ont été amenés à préparer le dernier repas du Seigneur, et, vous l'aurez peut-être remarqué, l'insistance se trouve mise sur le symbolisme de la coupe, et donc sur l'invitation que fait Jésus à boire le vin devenu son sang. On se souvient ici qu'un élément important du repas pascal, seder en hébreu, sont précisément les différentes coupes que les convives boivent solennellement après les avoir bénies. Il y en a 4, bues chacune à un moment particulier du repas, auquel s'ajoute une 5e coupe, celle du prophète Élie, que l'on ne touchait pas en signe d'attente du royaume à venir, d'attente du Messie annoncé. Chacune de ces 4 coupes est liée à une servitude qui attachait le peuple captif en Égypte. Elle exprime donc, chacune de ces coupes, un aspect de la libération accomplie par Dieu en faveur de son peuple. Il y avait la coupe de la pauvreté, des mauvais traitements physiques, celle des insultes et des humiliations, celle de la ruine spirituelle. S'il ne nous dit pas quelle coupe Jésus a choisi pour l'Eucharistie, saint Marc nous montre comment le Seigneur s'est attaché dans un premier temps, d'une façon très fidèle, au rituel juif de la Pâque, pour ensuite le bouleverser totalement, en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Jésus s'insère en effet lui-même dans le rituel. Il s'identifie, ni plus ni moins, à la victime, l'agneau pascal, dont la chair avait été saignée préalablement au temple. C'est en ce sens que l'alliance scellée par Jésus en son sang est véritablement l'alliance nouvelle. Elle est l'alliance qui accomplit la première alliance du Sinaï en même temps qu'elle l'achève. Cette évocation du sang nous renvoie à une image émouvante et très belle, reprise à l'époque médiévale, du premier des bestiaires chrétiens, l'image du pélican. On sait que cet oiseau nourrit ses petits avec la nourriture ingurgitée dans son jabot. Des légendes anciennes ont laissé croire qu'il pouvait aller jusqu'à s'ouvrir les entrailles pour nourrir ses petits par son propre sang. Et de là le fait, bien sûr, que le pélican soit devenu un symbole du Christ qui, dans l'Eucharistie, donne sa vie et son sang pour la multitude. Dans l'hymne à Dorothée qu'il composa jadis pour l'office du Saint-Sacrement, saint Thomas d'Aquin s'adresse au Christ en ces termes « Bon pélican, pille pélicane, Seigneur Jésus, purifiez-moi impur par votre sang dont une seule goutte peut sauver le monde entier de ses crimes. » Nous le savons, ils sont myriades, les saints et les saintes, qui sont devenus saints justement pour s'être appropriés les vertus du Christ eucharistique et avoir accueilli dans leur propre vie l'efficacité salvifique de son sang. Et je pense en particulier à saint Angèle de Foligno, à qui Jésus montra son cœur en l'invitant à poser sa bouche sur la plaie de son côté. Et Angèle de dire, je cite, « J'eus l'impression de voir et de boire son sang en train de couler de son côté, et il m'était donné de comprendre qu'en ce sang, il me purifiait. » Seigneur Jésus, pour chacune et chacun de nous, ici rassemblés, tu as versé une goutte de ton sang jailli de ton cœur transpercé sur la croix. Donne-nous d'accueillir la vertu purificatrice de ton sacrifice rédempteur. Donne-nous la grâce de devenir ce que nous avons reçu en sachant mettre en pratique le rite que nous avons célébré par un amour plus généreux de Dieu et de nos frères. Qu'il en soit ainsi. Amen.